France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1951, pour une série de 8 émissions diffusées sur la chaîne nationale, Francis Carco retraçait le parcours d'Arthur Rimbaud depuis sa naissance à Charleville en octobre 1854 jusqu'à sa mort à Marseille le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans. Après avoir, dans les 6 premiers volets, raconté son enfance, ses premières fulgurances poétiques et l'histoire de sa passion amoureuse et littéraire avec Verlaine, il se consacrait dans les 2 derniers épisodes à la vie du jeune poète après sa dernière entrevue avec Verlaine, à Stuttgart, en février 1875. Première diffusion sur la chaîne nationale, les 19 et 26 avril 1951.
Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit. Par Francis Carco de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Morane et Jean Topard prêtent leur concours à cette 7e émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, lisons-nous dans les illuminations, un lièvre s'arrêta dans les saints foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Ô les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer étagées là-haut comme sur les gravures. Le sang coula chez Barbe Bleue. Aux abattoirs, dans les cirques où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. Les castors battirent, les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardaient les merveilleuses images. N'est-ce pas à la contemplation de ces images dont il parle d'ailleurs dans un de ses premiers poèmes, les poètes de 7 ans, que Rimbaud contracta pour la vie la hantise de parcourir le vaste monde à la recherche d'horizons et de figures inconnues.
Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de tête blanche. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant. Enrubanné. Il y a une troupe de petits comédiens en costume, aperçus sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse.
N'oublions pas non plus cette impression qu'il a fixée dans sa magie, à l'instant même où elle le saisit d'un frisson.
Dans la feuillée, écrin vert taché d'or, dans la feuillée incertaine et fleurie de fleurs splendides où le baiser dort, vif et crevant l'exquise broderie, un faune effaré montre ses deux yeux et mord les fleurs rouges de ses dents blanches. Brunie et sanglante ainsi qu'un vin vieux, sa lèvre éclate en rire sous les branches. Et quand il a fui tel qu'un écureuil, son rire tremble encore à chaque feuille, et l'on voit, épeuré par un bouvreuil, le baiser d'or du bois qui se recueille.
C'est sa manière de s'exprimer en suggérant l'indicible. Tous les poètes me comprendront. En effet, contrairement à l'opinion courante, la poésie n'a que faire des accessoires, des oripeaux dans la plupart de nos gloires officielles s'encombre. Statues, colonnes tronquées, truquées ou ébréchées, frontons en ruine, peaux de lion, de tigre, de léopard, diadèmes. Si l'animateur manque, c'est un bric-à-brac d'antiquaire. Tandis que Rimbaud recrée le monde dans ses formes originelles et le laisse vivant après lui. C'est antique, par exemple. N'a-t-il pas conservé la pureté, le reflet du divin ?
Gracieux fils de Pan, autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux des boules précieuses remuent, tachés de lie brune, tes joues se creusent, tes crocs luisent, ta poitrine ressemble à une cithare, des tintements circulent dans tes bras blonds, ton cœur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi la nuit, en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche.
Sa voyance ne l'avait point encore brûlé des feux qu'elle a tisés en lui, ni jeté dans les flammes d'une saison en enfer. Mais déjà, comme il s'en était ouvert à Banville, « Je ne sais ce que j'ai là qui veut monter », il pressentait que son destin le portait à être poète et qu'il ne lui échapperait pas. Verlaine, qu'il venait de découvrir à Charleville pendant la guerre, l'avait séduit. « J'ai les fêtes galantes », écrivait-il à son maître Isambard. « C'est fort bizarre, très drôle, mais vraiment c'est adorable. Achetez, je vous le conseille, la bonne chanson, un petit volume de vers du même poète. »
Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu, un instant à la fois très vague et très aigu. Oh, ce soleil parmi la brume qui se lève, oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes, un lent réveil après bien des métempsychoses. Les choses seront plus les mêmes qu'autrefois. Dans cette rue, au cœur de la ville magique, où des orgues moudront des gigues dans les soirs, où les cafés auront des chats sur les dressoirs et que traverseront des bandes de musique, ce sera si fatal qu'on en croira mourir. Des larmes ruisselant douces le long des joues, des rires sanglotés dans le fracas des roues, des invocations à la mort de venir, des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées, les bruits aigres des bals publics arriveront, et des veuves avec du cuivre après leur front, paysannes fendront la foule des traînées qui flânent là, causant avec d'affreux moutards, et des vieux sans sourcils que la darte enfarine. Cependant qu'à deux pas, dans des senteurs d'urine, quelque fête publique enverra des pétards. Ce sera comme quand on rêve et qu'on s'éveille, et que l'on se rendort et que l'on rêve encore de la même féerie et du même décor, l'été, dans l'herbe, au bruit moiré d'un vol d'abeilles.
Rimbaud, toutefois, devait aller plus loin, faire corps avec la sensation. Lorsque sa mère lui demanda le sens d'une saison en enfer, il répondit « J'ai voulu dire ce que ça dit littéralement et dans tous les sens. Qui ne comprend pas d'instinct ne comprendra jamais. » On pourrait presque reprendre à un mot près cette phrase de la narration française qu'il rédigea sur les bancs du collège. « Pourquoi apprendre du grec, du latin et dire « Pourquoi comprendre ?» Mieux vaut se laisser envahir d'une secrète, profonde et totale soumission à l'ivresse qu'il éprouve lui-même dans cette lumière des premiers âges.
À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier, vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Oh, pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus, laisse un peu les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie pour que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer, à midi.
Évidemment, le bateau ivre, Paris se repeuple, les mains de Jeanne-Marie, accroupissement, les sœurs de charité, sont d'une orchestration plus vaste, plus colorée. Mais ils possèdent peut-être moins de force de persuasion, de révélation, de présence. Matisse, dans l'arabesque de ses suites de dessins, est arrivé à cette subtilité du trait, cette musique même essentielle, à ce duvet de sensibilité dont Rimbaud, dans ses derniers vers, a enrichi son œuvre. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Il y a là une sorte d'allégresse, de délivrance de la matière et du sujet, une manière si pure de perception, de création par le simple pouvoir des mots, qui fait penser au vers célèbre de l'après-midi d'un faune de Mallarmé. C'est à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Or, cette inspiration soudain évaporée, Rimbaud, homme, écrit sa sœur Isabelle, a totalement différé pour les idées comme pour le genre d'existence de l'adolescent que fut Rimbaud littérateur. Là non plus, il n'y a pas à comprendre. Mais n'est-il pas possible d'admettre que l'attraction qu'exerça de bonheur sur lui la lecture des journaux illustrés ou rouges il regardait des Espagnols rire et des Italiennes, mais finalement décidé de son nouveau destin. Tout est signe chez certains êtres. Le mythe du père absent, lointain, a joué dans la vie d'Arthur un rôle considérable. Qu'importe que Verlaine, après son échec de Stuttgart, fasse allusion aux demandes d'argent de son ancien compagnon de débauche et aux menaces plus ou moins déguisées qu'il avait de lui nuire. La véritable transformation d'Arthur date d'un peu plus tard, de son premier contact avec la vie. En effet, à Vienne, écrit toujours sa sœur, il fut volé de tout son argent par un individu qui s'était attaché à ses pas pendant le voyage. Qui sait quel était cet individu? Se trouvant sans ressources, il dut naturellement faire, sans mendier cependant, sa déclaration à la police et au consulat qui lui fournit les fonds nécessaires pour son retour en France. Isabelle, comme il va de soi, défend son frère. Il y a bien l'histoire de son engagement pour 6 ans dans l'armée coloniale hollandaise, moyennant une prime de 300 florins, et quelques mois plus tard, le 23 ou le 30 juillet 1876, de sa désertion à Java. S'il avait déserté, réplique finement Isabelle, comment serait-il retourné en Hollande? On l'aurait arrêté. Voilà pourtant Arthur à Charleville, qu'il regagne par la route depuis Bordeaux, où le voilier anglais à bord duquel il est inscrit à l'équipage le ramène. C'est alors qu'il traverse la Hollande à pied et arrive à Hambourg et se fait embaucher comme interprète au cirque Loissé. Il parcourt le Danemark, la Suède, mais encore une fois de solliciter du consul de France à Stockholm son rapatriement. Pas de chance. Souvenez-vous de cet aveu d'une saison en enfer. Tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. C'est le bagne, réellement. La fortune qu'il va chercher jusqu'en Égypte ne lui sourit pas. Malade, il revient chez sa mère, passe plusieurs mois à Charleville, puis s'embarque à nouveau pour la terre des pharaons. Le climat le déprime. D'Alexandrie, il prend la mer pour Chypre, où il doit accepter pour vivre un emploi de chef de chantier. Nouveau retour à Charleville, nouveau départ l'année suivante, sans plus de succès. « Je n'ai rien trouvé à faire en Égypte, écrit-il au sien, le 25 mai 1880, et je suis reparti pour Chypre. En arrivant, j'ai trouvé l'emploi que j'occupe à présent. Je suis surveillant au palais que l'on bâtit pour le gouverneur général, au sommet du Troodos, la plus haute montagne de l'île. » Le 17 août, il annonce à sa mère qu'il a quitté Chypre avec 400 francs en poche après des disputes. J'ai cherché du travail dans tous les ports de la mer Rouge, à Jeddah, Souakim, Massawa, Hodeïda. Je suis venu ici, à Aden, après avoir essayé de trouver quelque chose à faire en Abyssinie. Je n'ai pas trouvé ce que je présumais et je vis d'une façon fort ennuyeuse et sans profit. Dès que j'aurai 1500 ou 2000 francs, je partirai. Et j'en serai bien aise. Je compte trouver mieux un peu plus loin. J'ai pincé une maladie peu dangereuse par elle-même, mais ce climat-ci est traître. On ne guérit jamais d'une blessure. Pressentait-il que ce bled lui porterait malheur? Dix ans plus tard, il confiait de Marseille à sa sœur Isabelle lors de l'amputation de sa jambe droite. Le climat du Harare est froid de novembre à mars. Moi, par habitude, je ne me vêtais presque pas. Un simple pantalon de toile et une chemise de coton. Avec cela, des courses à pied de 15 à 40 km par jour. Des cavalcades insensées à travers les abruptes montagnes du pays. Je crois qu'il a dû se développer dans le genou une douleur arthritique causée par la fatigue, le chaud et le froid. En effet, cela a débuté par un coup de marteau, pour ainsi dire, sous la rotule. Léger coup qui me frappait à chaque minute. Grande sécheresse de l'articulation et rétraction du nerf de la cuisse. Vint ensuite le gonflement des veines tout autour du genou. Je marchais, je travaillais toujours beaucoup plus que jamais. Grand, sec, yeux gris, moustache blonde mais petite, ainsi que le décrit Alexandre Messiniki, consul à Massawa, Rimbaud n'avait plus à l'époque cet air de mauvais ange qui ravissait Verlaine. Celui-ci n'avait rien oublié. Quand, en 1886, le bruit de la mort d'Arthur courut les salles de rédaction, pauvre Lélian en fut bouleversé. Il écrivit alors et publia dans La Cravache, au mépris de l'opinion, ce poème pathétique.
On vous dit mort, vous, que le diable emporte avec qui la colporte, la nouvelle irrémédiable qui vient ainsi battre ma porte. Je n'y veux rien croire. Mort, vous, toi, Dieu parmi les demi-dieux. Ceux qui le disent sont des fous. Mort, mon grand péché radieux. Tout ce passé brûlant encore dans mes veines et ma cervelle, et qui rayonne et qui fulgore sur ma ferveur toujours nouvelle. Mort, tout ce triomphe inouï, retentissant sans frein ni fin, sur l'air jamais évanoui que bat mon cœur, qui fut divin. Quoi, le miraculeux poème, et la toute philosophie, et ma patrie et ma bohème, mort! Allons donc, tu vis ma vie.
Rimbaud n'eut jamais connaissance de ces vers qu'il avait inspirés, en supposant d'ailleurs qu'on les lui ait communiqués, il avait autre chose en tête que des souvenirs. Une affaire d'armes lui causait des soucis d'un ordre moins sentimental. Au Coa, expose-t-il au vice-consul de France à Aden, la négociation de ma caravane se fit dans des conditions désastreuses. Ménélique s'empara de toutes les marchandises et me força de les lui vendre à prix réduit, m'interdisant la vente au détail et me menaçant de les renvoyer à la côte à mes frais. Il ne se fait plus d'illusions, hélas, avoue-t-il à sa mère. Je ne tiens pas du tout à la vie. Et si je vis, je suis habitué à vivre de fatigue. Mais si je suis forcé de continuer à me fatiguer comme à présent et à me nourrir de chagrin aussi véhément qu'absurde, dans ces climats atroces, je crains d'abréger mon existence. Néanmoins, sa situation s'améliore dans la mesure où elle le peut. Plus question de 7 francs par jour en vendant du café. Rimbaud s'est mis à trafiquer. Il achète des pots, de l'ivoire, des perles, et les revend à des marchands qui n'ont pas comme lui le cran de se les procurer sur place dans des régions où ils risquent de perdre la vie ou la santé. Et c'est alors qu'à propos du parti que sa sœur Isabelle refuse, il en arrive à cette humble confession. Je regrette de ne pas être marié et d'avoir une famille. Mais à présent, je suis condamné à errer, attaché à une entreprise lointaine, et tous les jours, je perds le goût pour le climat, les manières de voir, et même la langue de l'Europe. À quoi servent ces allées et venues et ces fatigues, ces aventures chez des races étranges, si je ne dois un jour, après quelques années, pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise, à peu près, et trouver une famille et avoir au moins un fils que je passe le reste de ma vie à élever à mon idée. On croit avoir mal lu. Rimbaud, père de famille, le même qui avait écrit « Ces pauvres à l'église ».
Parqués entre des bancs de chêne, au coin d'église, qu'attiédit puamment leur souffle, tous leurs yeux vers le cœur ruisselant d'ori, et la maîtrise au vin gueulant des cantiques pieux. Comme un parfum de pain humant l'odeur de cire, heureux, humiliés comme des chiens battus, les pauvres au bon Dieu, le patron et le sire, tendent leurs orémus risibles et têtus. Aux femmes, c'est bien bon de faire des bancs lisses, après les 6 jours noirs où Dieu les fait souffrir. Elles bercent, tordus dans d'étranges pelisses, des espèces d'enfants qui pleurent à mourir. Leurs seins crasseux d'or, ces mangeuses de soupe, une prière aux yeux et ne priant jamais, regardent parader mauvaisement un groupe de gamines avec leurs chapeaux déformés. Dehors, le froid, la faim, et puis l'homme en ribote. C'est bon. Encore une heure. Après, les mots sans nom. Cependant, alentour, Jean, Nazi, chuchote une collection de vieilles affanons. Ces effarés y sont, et ces épileptiques dont on se détournait hier au carrefour. Et fringalant du nez dans des micelles antiques, ces aveugles qu'un chien introduit dans les cours. Et tous, bavant la foi mendiante et stupide, récite la complainte infinie à Jésus qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide, loin des maigres mauvais et des méchants pansus, loin des senteurs de viande et d'étoffes moisies, face prostrée et sombre aux gestes repoussants, et l'oraison fleurie d'expressions choisies. Et les mysticités prennent des tons pressants. Quand des nefs où périt le soleil, plis de soie banale, sourire vert, les dames des quartiers distinguées. Ô Jésus, les malades du foie font baiser leurs longs doigts jaunes au bénitier.
Isabelle ne se trompait pas en affirmant que l'homme chez son frère n'avait rien conservé du poète. Qu'aurait dit Verlaine d'une pareille transformation ? Nous sommes en 1881, pauvre des liens publié Sagesse, où figure ce sonnet sans égal dans son œuvre.
Beauté des femmes, leur faiblesse et ses mains pâles, qui font souvent le bien et peuvent tout le mal. Et ses yeux où plus rien ne reste d'animal que juste assez pour dire assez aux fureurs mâles. Et toujours maternelle endormeuse des râles, même quand elle ment cette voix. Matinal appel, ou chant bien doux à vêpres, ou frais signal, ou beau sanglot qui va mourir au pli des châles. Homme dur, vie atroce et laide d'ici-bas. Ah, que du moins, loin des baisers et des combats, quelque chose demeure un peu sur la montagne. Quelque chose du cœur, enfantin et subtil. Bonté, respect. Car qu'est-ce qui nous accompagne? Et vraiment, quand la mort viendra, que reste-t-il?
Qu'en pensez-vous ? On a beau dire, c'est la vie. La vie parfois passe la mesure du vraisemblable. Je vais atteindre les 30 ans, lamente-t-il. Et je me suis fort fatigué à rouler le monde sans résultat, sans même avoir une adresse personnelle. La sienne est encore poste restante, Aden Khan, Arabie. On le plaint. On ne peut que le plaindre. Cependant, tout ce qu'il approche est comme ensorcelé. Hier, communique le 9 juin 1899 à sa fille, celle qu'il appelait de son vivant la Motère. Je venais d'arriver à la messe, j'étais encore à genoux, faisant ma prière, lorsqu'arrive près de moi quelqu'un à qui je ne faisais pas attention. Et je le vois poser sous mes yeux, contre le pilier, une béquille, comme le pauvre Arthur en avait une. Je tourne la tête et reste anéanti. C'était bien Arthur lui-même. Même taille, même âge, même figure. peau blanche, grisâtre, point de barbe, et de petites moustaches et une jambe de moins. Ce garçon me regardait avec une sympathie extraordinaire. Il ne m'a pas été possible, malgré tous mes efforts, de retenir mes larmes. Larmes de douleur, bien sûr, mais il y avait au fond quelque chose que je ne saurais expliquer. Je croyais bien que c'était mon fils bien-aimé qui était près de moi. Il y a plus encore. Une dame en très grande toilette passe près de nous. Elle s'arrête et lui dit en souriant, « Viens donc près de moi, tu seras beaucoup mieux qu'ici. » Il lui répond, « Je vous remercie, ma tante, mais je me trouve très bien ici et je vous prie de m'y laisser. » Mon Dieu, est-ce donc mon pauvre Arthur qui vient me chercher ? Rimbe était mort depuis 8 ans lorsque sa mère crut le revoir. Un jour, peut-être, a-t-il fait dire à la vierge folle d'une saison en enfer, il disparaîtra merveilleusement. Pourquoi n'aurait-il pas conservé le pouvoir de choisir l'heure dans une église d'une aussi merveilleuse, troublante, inexplicable apparition ?
Tout de suite, le dernier épisode de cette série d'émissions, diffusée pour la première fois en avril 1951.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carcot de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Morane et Jean Topard prêtent leur concours à cette 8e et dernière émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
C'est à Verlaine, malgré leurs différends, que Rimbaud doit en partie sa gloire. Vous le savez, l'art n'est pas tout. Il lui faut cette blessure secrète que seuls de grands poètes savent entretenir sans jamais la laisser se cicatriser. Verlaine s'y est employé de son mieux. C'est lui qui, pour désigner ses poètes, qu'on tenait alors pour des monstres, les a justement appelés des poètes maudits. La plaquette qu'il leur consacra parut en 1884. Elle contenait 3 études sur Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière et Jean-Arthur Rimbaud. On en était encore au pittoresque des chansons des rues et des bois, aux mièvreries des fêtes galantes. Et brusquement, grâce à Verlaine, le débat s'est élevé. Car, pour sa juste réputation, l'auteur de Parallèlement et de Sagesse a su prouver que la malédiction qui pèse sur certains êtres ne consiste pas uniquement dans leur infortune matérielle, mais d'abord et surtout dans le fait que désignés pour être et demeurer poètes, ils n'ont jamais failli à leur mission. N'insistons pas. L'essentiel est que pour la première fois, le sonnet des voyelles, oraison du soir, les assis, les effarés, les chercheuses de poux, qu'il compare aux toiles d'un Goya lumineux exaspéré blanc sur plan, jusqu'au fantastique bateau ivre et première communion, aient été réunis en volume. Verlaine, d'ailleurs, ne se fait pas d'illusion. Il n'en a que plus de mérite. Eussions-nous consulté Rimbaud, dont nous ignorons l'adresse, aussi bien vague immensément, il nous aurait, c'est probable, déconseillé d'entreprendre ce travail pour ce qui le concerne. Ainsi, maudit par lui-même, ce poète maudit. Mais l'amitié et la dévotion littéraire que nous lui vouerons toujours nous ont dicté ses lignes, nous ont fait indiscrets. Tant pis pour lui, tant mieux, n'est-ce pas, pour vous. Tout ne sera pas perdu du trésor oublié par ce plus qu'insouciant possesseur. Et si c'est un crime que nous commettons, Félix culpa alors. Précédent qu'il n'a garde de négliger, Verlaine cite une pièce, reniée ou désavouée par Rimbaud, qui parut dans la revue La Renaissance vers 1873. Cela, dit-il, s'appelait Les Corbeaux.
Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs grimaçant sur le ciel, et leur claquant au front un revers de savate, les fait danser, danser au son d'un vieux Noël. Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles, comme des orgues noirs les poitrines à jour, que serraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Ouah, les gais danseurs qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violons. Oh, dur talon, jamais on n'use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau. Le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées. Un morceau de chair tremble à leur maigre menton. On dirait, tournoyant dans les sombres mêlées, des preux raides heurtant armure de carton. Ouah, la bise siffle au grand bal des squelettes. Le gibet noir mugit comme un orgue de fer. Les loups vont répondant des forêts violettes. À l'horizon, le ciel est d'un rouge d'enfer. Holà, secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici, les trépassés. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou, emporté par l'élan comme un cheval se cabre. Et se sentant encore la corde raide au cou, crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal au son des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin.
Thank you.
Nous avons eu la joie, écrit encore Verlaine, de connaître Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, des choses nous séparent de lui, sans que, bien entendu, notre très profonde admiration ait jamais manqué à son génie et à son caractère. À l'époque relativement lointaine de notre intimité, Arthur Rimbaud était un enfant de 16 à 17 ans, déjà nanti de tout le bagage poétique qu'il faudrait que le vrai public connût. Paul n'a pas de rancune. Le souvenir des coups qu'Arthur lui a assénés sur une berge d'une écart à Stuttgart s'est effacé. Et pauvre Lélian poursuit. Après quelques séjours à Paris, puis diverses pérégrinations plus ou moins effrayantes, Rimbaud vira de bord et travailla, lui, dans le naïf, le trait et l'exprès trop simples, n'usant plus que d'assonances, de mots vagues, de phrases enfantines ou populaires. Il disait dans sa saison en enfer, « Ma journée est faite, je quitte l'Europe. » L'homme a tenu parole. Il ignorait encore que l'heure de la punition approchait. Dieu des humbles, sauvez cet enfant de colère. A-t-il beau s'exclamer dans sagesse, Verlaine n'empêchera rien. Si Rimbaud, l'infatigable, l'homme aux sommelles de vent, avait pu renoncer à la fascination qui exerçait sur lui l'aventure, peut-être aurait-il tout de bon réalisé le rêve de la fin de sa vie. Il aspirait au calme que 13 000 francs épargnés sur ses gains pouvaient lui procurer. Malheureusement, il était pris dans l'engrenage, marche ou crève. « Je ne puis reculer, explique-t-il au sien, jusqu'à la date du mardi 7 avril 1891, où la première atteinte du mal qui devait l'emporter le contraignit à renoncer. Écoutez-le.
Voyant toujours augmenter l'enflure de mon genou droit, et la douleur dans l'articulation, sans pouvoir trouver aucun remède ni aucun avis, puisqu'au Harare, nous sommes au milieu des nègres et qu'il n'y a pas de médecin, je me décidai à descendre. Il fallait abandonner les affaires, ce qui n'était pas très facile car j'avais de l'argent dispersé de tous les côtés. Mais enfin, je liquidai à peu près. Depuis une vingtaine de jours, j'étais couché au Harare et dans l'impossibilité de faire un seul mouvement, souffrant de douleurs atroces et ne dormant jamais. Je louais 16 nègres porteurs à raison de 15 talaris l'un, du Harare à Zeila. Je fis fabriquer une civière recouverte d'une toile, et c'est là-dedans que je viens de faire en 12 jours 300 kilomètres de désert.
Ses jambes, comme il dit aux merveilles, l'avaient trahi. À Zeila, il entre à l'hôpital européen, où il occupe l'unique chambre réservée aux malades payants. Le docteur anglais, dès que je lui ai montré mon genou, a crié que c'est une tumeur synovite, arrivée à un point très dangereux par suite de manque de soins et des fatigues. Il parlait d'abord de couper la jambe. Où donc était le temps des courses intrépides célébrées par Verlaine ? Dans parallèlement.
Nous allions, vous en souvient-il, voyageur où ça a disparu, filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux, on eût cru. Car les passions satisfaites, insolemment, outre mesure, mettaient dans nos têtes des fêtes, et dans nos sens que tout rassure, tout la jeunesse, l'amitié, et nos cœurs, ah, que dégager des femmes prises en pitié, et du dernier des préjugés. Laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, puisque quand la borne est franchie, Ponsard ne veut plus de limite. Des paysages, des cités posaient pour nos yeux jamais là. Nos belles curiosités eussent mangé tous les atlas. Fleuves et monts, bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique. L'Angleterre, mère des arbres, fille des beffrois, la Belgique. La mer terrible et douce au point brochait sur le roman très cher que ne discontinuait point notre âme et quid de notre chair. Le roman de vivre à deux hommes mieux que non par d'époux modèles, chacun ôta versant des sommes de sentiments forts et fidèles. L'envie aux yeux de Basilic censurait ce mode d'écho. Nous dignions du blâme public et soupions du même fricot. La misère aussi faisait rage par des fois dans le phalanstère. On ripostait par le courage la joie et les pommes de terre. Scandaleux sans savoir pourquoi, peut-être que c'était trop beau. Mais notre couple restait quoi ? Comme deux bons porte-drapeaux.
Avec sa jambe, dont l'état ne faisait qu'empirer, il est heureux que Rimbaud n'ait pas connu ses vers. Il en aurait peut-être éprouvé trop d'amertume. Le 22 mai 1891, de retour à Marseille, il expédie ce télégramme à sa mère. « Aujourd'hui, toi ou Isabelle, venez Marseille par train express. Lundi matin, on ampute ma jambe. Danger de mort, affaire sérieuse à régler, Arthur. » Répondez Rimbaud, hôpital Conception. Il avait autrefois écrit cette pièce de vers, toute frémissante, toute défaillante de vie.
Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais couleur de cire un petit rayon buissonnier papillonner dans son sourire et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en clairetrie, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvre, palpitant sous ma lèvre, je baisai doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. « Oh, c'est encore mieux !»« Monsieur, j'ai deux mots à te dire !» Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près.
Quel ennui, quelle fatigue, quelle tristesse. C'est lui qui s'exprime de la sorte. En pensant à tous ces anciens voyages, et comme j'étais actif, il y a seulement 5 mois, où sont les courses à travers monts, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers? À présent, l'existence de cul-de-jatte. Car je commence à comprendre que les béquilles, jambes de bois et jambes mécaniques, sont un tas de blagues, et qu'on arrive avec tout cela à se traîner misérablement sans pouvoir jamais rien faire. Et moi qui avais décidé de rentrer en France cet été pour me marier. Adieu mariage, adieu famille, adieu avenir. Ma vie est passée, je ne suis plus qu'un tronçon immobile. Entre-temps, la fameuse plaquette de Verlaine sur les poètes maudits avait répandu les poèmes de Rimbaud parmi les jeunes, qui ne jurant que par lui, l'admiraient dans toute son outrance. Les cafés et les brasseries du Boulmich étaient pleins de son nom. Les mêmes poètes qui devaient un matin de neige accompagner 5 ans plus tard la dépouille de Verlaine au cimetière des Batignolles en récitant tout haut les vers de sagesse de parallèlement de jadis et naguère savaient par cœur le bateau ivre, Paris se repeuple, les assis, le sonnet des voyelles et ce chant de guerre parisien que M. Topard va vous dire. Sa gloire allait croissant.
Le printemps est évident car, du cœur des propriétés vertes, le vol de Thiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Oh, mais, quel délirant qu'une eût. Sèvres, Meudon, Bagneux, Agnières, écoutez donc les bienvenus semer les choses printanières. Ils ont shako, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies, et les yoles qui n'ont jam-jam. Fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais nous bambochons, quand viennent sur nous fourmilières crouler les jaunes cabochons dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des héros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole, ils font des coraux. Voici annotonner leur trope. Ils sont familiers du grand turc. Et couchés dans les glaïeuls, Favre fait son sillement taqueduc et ses reniflements à poivre. La grand ville a le pavé chaud, malgré vos douches de pétrole. Et décidément, il nous faut vous secouer dans votre rôle. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements.
Hélas, dans sa petite chambre de l'hôpital de la Conception à Marseille, où il essayait de marcher, il écrivait à sa sœur Isabelle : « Je suis cicatrisé depuis longtemps, quoique les névralgies dans le moignon soient toujours aussi fortes. Et voilà que mon autre jambe se trouve très faible. Je ne puis béquiller plus de quelques minutes sans avoir l'autre jambe congestionnée. Aurais-je une maladie des os et devrais-je perdre l'autre jambe? J'ai très peur. J'ai commandé une jambe de bois, ça ne pèse que 2 kilos. Ça sera prêt dans 8 jours. Avec tout cela, fin juillet, je serai encore à l'hôpital. » Toutefois, il finit par retourner à Roche, dans sa famille, où, quoi qu'il en ait dit, Madame Rimbaud, la motère, l'a toujours recueilli chaque fois qu'il était en détresse. Son séjour à Roche ne lui avait pas réussi. Il reprit donc le train pour Paris et se fit voiturer en fiacre de la gare du Nord à la gare PLM. Il me semble le voir dans ce fiacre, à côté d'Isabelle et regardant par la portière l'animation des rues, des boulevards. Rien de son passé ne ressuscite en lui. Il regarde. Sa jambe de bois le gêne, le fait souffrir. Une douleur qu'il a depuis un certain temps à l'aisselle et l'engourdissement de son bras droit l'emplissent d'appréhension. Il est très maigre. Ses yeux sont enfoncés et cerclés de noir. Quelle misère! Il n'aurait dû pourtant qu'à prendre à droite le boulevard de Strasbourg, descendre le Sébasto, franchir la Seine au Châtelet, puis remonter le Boulmich. Peut-être aurait-il reconnu Verlaine, vieilli et misérable, traînant la jambe en s'appuyant sur son gourdin, ou cuvant à l'intérieur d'un café du quartier sa 8e, sa 10e absinthe. Isabelle, sans doute, l'aurait aidé à sortir du fiacre afin de pénétrer soit à la source, soit au François Ier. Mais à quoi bon la chanson de Gaspard Hauser que Verlaine avait écrite à Londres au cours de leur sombre équipée, ne lui revient même pas à la mémoire. Est-ce bizarre? La dernière strophe eût pu le consoler.
Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard.
À quoi bon? Il se disait plutôt que le climat de Marseille l'aiderait à se rétablir. Mais à peine débarqué de wagon, il retourne à l'hôpital avec une résignation qu'on n'eût point supposée, hélas. Depuis que le calme lui est revenu, constate sa sœur dans une lettre du 22 septembre, il pleure toujours. Il m'embrasse en sanglotant, en criant, en me suppliant de ne pas l'abandonner. La mort de Rimbaud fut horrible. Il aurait tant voulu vivre, guérir, qu'il se raccrochait à tout autour de lui. Pauvre Isabelle. Il émeut tout le monde ici, apprend-elle à sa mère. On le traite comme un condamné à mort à qui rien ne se refuse. Mais toutes ses complaisances, toutes ses petites gâteries sont en pure perte. Il ne les accepte jamais. Enfin, le mercredi 28 octobre, ma chère maman, écrit cette créature admirable de tendresse et de dévouement, Dieu soit mille fois béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un malheureux réprouvé qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir deux fois. Il les avait reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait point osé lui parler de la mort. Samedi soir, toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne fin. Dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser, et il a bien voulu. Quand le prêtre est sorti, ajoute Isabelle, il m'a dit en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant. Que nous disiez-vous donc qu'il a la foi, et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. » Il rendit l'âme le 10 novembre, dans sa 37e année, un cancer énorme entre la hanche et le ventre, juste à la hauteur de l'os, s'était développé. Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle. Il avait la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre, et tous ses pauvres membres paralysés, mutilés, morts autour de lui. Cette fois encore, Verlaine lui consacra des vers dont l'accent n'a pas fini de nous bouleverser.
Toi, mort, 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 mais mort du moins tel que tu veux, en nègre blanc, en sauvage splendidement civilisé, civilisant négligemment. Ah, mort, vivant plutôt en moi de mille feux. Les femmes te verront grand jeune homme très fort, très beau, d'une beauté paysanne et rusée, très désirable, d'une indolence causée. L'histoire t'a sculpté triomphant de la mort, et jusqu'aux purs excès jouissant de la vie, tes pieds blancs posés sur la tête de l'envie.
Thank you.
la radiodiffusion française vient de vous présenter Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carcot de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Morane et Jean Topard ont prêté leur concours à cette 8e et dernière émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
C'était Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, 7e et dernier volet d'une série de 8 émissions proposées par Francis Carcot, réalisée par Albert Riera, première diffusion sur la chaîne nationale, les 19 et 26 avril 1951.